8h10 en temps universel.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans un instant, vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes des RFI. Vous connaissez le principe maintenant. S'il vous manque des clés, des repères pour décrypter, pour mieux comprendre l'actualité, eh bien n'hésitez pas, nous sommes là, nous répondons à vos questions. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas évidemment à nous poster votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler, car le principe de cette émission, c'est de vous donner la parole, c'est de vous entendre où que vous soyez à travers le monde. Dans 30 minutes, nous parlerons ce matin d'environnement et nous lancerons le débat sur la lutte contre le réchauffement climatique. Vous le savez, aujourd'hui, 120 chefs d'État et de gouvernement se sont donné rendez-vous à New York pour un sommet de l'ONU sur le climat. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a réclamé aux dirigeants des annonces audacieuses, mais il est peu probable qu'ils soient entendus, car si tout le monde reconnaît la nécessité de limiter la hausse des températures, aucun pays, à part peut-être certains comme l'Union européenne par exemple, accepte de faire des efforts. Alors vous sentez-vous concerné par cette problématique du réchauffement climatique? Constatez-vous dans votre pays les conséquences du réchauffement de la planète? Et dites-nous, quelles initiatives prennent vos pays, vos États, pour tenter justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Vos témoignages et vos réactions nous intéressent. Vous nous rejoignez au standard 33 9 693 693 70 et évidemment sur les réseaux sociaux. Vos questions à la rédaction. La première question nous vient de la région parisienne. Bonjour Mamadou.
Oh, bonjour Juan Gomez.
Vous avez des questions concernant les relations entre le Mali et la Russie.
Parfaitement. Et il y a quelques jours, la Russie a déclaré qu'elle est favorable à la livraison des armes lourdes à l'armée malienne. Je veux savoir aussi... pour quelles raisons le Mali doit se fournir auprès de la Russie? Et quand est-ce que la livraison des armes est prévue quand?
Ah, c'est vrai que la Russie s'est engagée à livrer des armes à Bamako dans le cadre de la lutte antiterroriste. Bonjour Serge Daniel.
Ouais, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant des RFI au Mali. Vous êtes à Bamako. Faut quand même préciser à Mamadou que cela fait maintenant 2 ans que la Russie livre des armes au Mali.
Oui, tout à fait. La Russie a livré déjà des armes au Mali il y a 2 ans. Disons plutôt, c'était quand même des armes plutôt légères. Hein. Il y a cette coopération qui est quand même ancienne. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date des indépendances. Hein. Mais la nouveauté, Juan, c'est que cette fois-ci, on peut dire que c'est du lourd. Parce que le ministre des Affaires étrangères lui-même s'est déplacé. Il a été reçu par son homologue russe, c'est pas fréquent d'en parler, et là on a annoncé une livraison prochaine de plusieurs types d'armement, et cette fois-ci de l'armement lourd. Vous avez des hélicoptères, les fameux Mi-17 par exemple, et non seulement des hélicoptères, mais des appareils lourds au sol, des blindés par exemple, on a parlé de blindés, on a parlé de radars, des équipements militaires également. Et donc cette fois-ci, disons que c'est lourd. Et quand on demande au ministère de la Défense ici à combien se chiffrent tous ces armements, on dit « Ah, mais non, on peut pas pour le moment vous le dire parce que c'est du secret défense ». Mais un responsable du ministère malien de la Défense, pour vous donner l'idée de l'importance des contrats qui ont été signés ou des engagements qui ont été plutôt pris, le responsable dit « Vous allez voir, c'est du très lourd, on aura de quoi protéger une bonne partie de notre territoire national ».
Et justement Serge, cet arsenal de guerre servira à quoi? Il servira à combattre les rebelles islamistes du nord du Mali?
Alors, on fait ici une différence entre 2 choses. On fait une différence entre groupes armés et islamistes du nord du Mali. Mmh. On estime d'abord que les armes ne sont pas seulement pour le nord, mais que les armes, c'est pour protéger tout le territoire national, c'est-à-dire de l'ouest, du centre, au nord. Évidemment, il y a une situation au nord et on peut penser qu'une bonne partie de cet armement, il y a également des Mi-35, que j'ai oublié de le souligner, qu'une partie de cet armement irait évidemment au nord. Mais ce n'est pas pour combattre les rebelles Touareg, nous sommes en négociation avec eux, voilà ce qu'on dit au ministère malien de la Défense. tout en précisant que dans cette zone, il y a le trafic de drogue, qu'il y a les islamistes et que les avions, autant les avions de la coalition ou les avions français, les avions de la MINUSMA, volent aujourd'hui au nord du Mali pour assurer une partie de la sécurité de ce territoire. Il n'est pas du tout exclu que les avions maliens acquis, qui viendront de la Russie, servent à cela également.
A-t-on une date concernant la livraison de tout cet armement, Serge? C'était la deuxième question de Mamadou.
Voilà, là encore, on parle de secret de défense, on parle de secret de défense, mais bon, dans les couloirs du ministère de la Défense, on dit que, en principe, dans quelques semaines, dans quelques mois, les armes devraient être à Bamako.
En tout cas, dans le cadre du renforcement des capacités de l'armée malienne, Moscou accepte également de former des officiers de l'armée et de la police malienne. D'ailleurs, des officiers maliens sont présents à Moscou et on rappelle, Serge, que cette coopération militaire entre le Mali et la Russie n'est pas nouvelle. Elle remonte à l'époque de l'URSS et à l'accession du Mali à l'indépendance en 1960. Reste avec nous, Serge Daniel, correspondant d'RFI à Bamako. On a une autre question concernant le Mali. Bonjour Boubacar.
Bonjour Anne.
Bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Vous êtes à Bamako, dans la capitale malienne. On vous écoute.
J'ai appris la visite du président Ibeka en Chine pour un forum économique. Il était le seul chef d'État africain invité à ce forum. Là-dessus, mes questions sont les suivantes. Comment expliquer qu'Ibeka était le seul chef d'État africain invité à ce forum? Quel était l'objet de la visite? Et quels ont été les accords signés entre la Chine et le Mali?
Alors, Serge Daniel, le président malien a effectivement participé au Forum économique mondial d'été à Tianjin, en Chine. Ce forum est très important, il réunit plus de 2000 investisseurs. C'est l'un des grands rendez-vous de l'année pour les hommes d'affaires les plus influents de la planète. Que faisait le président malien à ce forum?
Alors, il était invité. Ouais, nous avons pu joindre des organisateurs de ce forum économique mondial qui s'est tenu à Tianjin, en Chine. Le problème, c'est qu'il parlait chinois et nous pas. Il a fallu un interprète qui parlait anglais. Mon anglais n'est pas bon. Mais bref, on a pu avoir des informations. Alors, ils expliquent qu'il y a eu plusieurs critères du choix du président du Mali. D'abord, le Mali est un pays qui est au centre de l'actualité sahélienne, notamment avec la situation au nord. Ensuite, vous avez un pays, disent-ils, qui fait des efforts pour sortir d'une crise, pour émerger d'un labyrinthe. Et puis ensuite, il y a un an, prime démocratique, des élections démocratiques se sont déroulées ici. Ensuite, les organisateurs, quand on les pousse dans leur dernier retranchement, ils ne le cachent pas. Le Mali a minutieusement préparé depuis 6 mois cette rencontre avec les organisateurs. Il y a eu une réunion sur réunion. Mmh. Et finalement, décision a été prise de mettre le Mali à la une, d'en faire l'invité vedette. Vous savez, ça existe dans des forums, de ce forum qui se tient chaque année, vous l'avez dit. C'est une sorte de Davos, d'ailleurs, et qui reçoit près de 2000 participants venus de 90 pays.
Et le président Ibeka est revenu de Chine, on peut le dire, les bras chargés de cadeaux.
On peut le dire, tout à fait, il est revenu. Et ce qui est intéressant, Juan, d'abord, pour le préciser, parce que c'était une question de notre ami auditeur, c'est qu'en marge de ce forum, on rencontre du monde. Le président Ibeka a participé à des panels de haut niveau sur, par exemple, les infrastructures en Afrique. Il y a eu également des entretiens avec les autorités chinoises, des chefs d'entreprise du monde, et il est revenu les bras chargés. Le Mali a obtenu des engagements, un don de l'argent cash, 18 milliards de francs CFA pour enflouer les caisses de l'État. Mmh. Et ensuite, il y a eu 34 engagements signés pour plus de 5 500 milliards de francs CFA dans les domaines des stratégiques, des infrastructures, du bâtiment, du transport, de l'énergie, de l'investissement, des mines, de la technologie, du numérique, par exemple. Je sais que vous aimez les détails, Juan. L'équipement, par exemple, dans le domaine des transports et du désenclavement. Vous voyez,
ça, c'est très important, effectivement.
Voilà, c'est très important. On a un projet de réalisation d'un chemin de fer entre Bamako et Conakry, long de 900 kilomètres pour 8 milliards de dollars, c'est-à-dire soit 4 000 milliards de francs CFA. Ne soyez pas étonnés, je suis en train de lire un papier. Ensuite, vous avez une rénovation de la voie du chemin de fer à hauteur de 750 milliards de francs CFA. Vous avez des réalisations, vous avez des ponts, vous avez la construction d'universités, l'aménagement des berges du fleuve Niger. C'est d'un bon résultat, c'est, je dirais, le meilleur résultat en termes de promesses qu'ait obtenu le président de la République depuis son arrivée au pouvoir il y a maintenant un an. Maintenant, il faut mettre ça en pratique, il faut que ça avance. On parle d'arrivée ici d'autorités chinoises, de responsables, de techniciens, et que ça devrait aller très vite.
La coopération chino-malienne. On pourra en parler, si vous le souhaitez, évidemment, vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Serge Daniel, merci d'avoir été avec nous en direct de Bamako. Boubacar, bonne journée également dans la capitale malienne, où il est 8h20. Ce sont vos questions à la rédaction. Plusieurs questions sur les conséquences du référendum il y a quelques jours en Écosse. Bonjour André.
Bonjour Anne, bonjour RFI.
Vous nous appelez de Libreville, au Gabon. Soyez le bienvenu.
Oui, merci beaucoup.
On vous écoute.
Oui, André, nous avons tous constaté que à la veille du référendum, David Cameron, sous la pression, a proposé de nouveaux pouvoirs à l'Écosse pour que celui-ci reste au sein du Royaume-Uni. J'aimerais savoir quels sont exactement ces nouveaux pouvoirs. Et également, quand est-ce que ce nouveau pouvoir entrera-t-il en vigueur ?
Alors, bonne question, effectivement. C'est vrai que malgré le rejet de l'indépendance, les Écossais ont gagné plus d'autonomie vis-à-vis de Londres. Pour y voir plus clair avec nous, Vincent Laborderie, bonjour. Merci d'être en direct de Belgique. Vous êtes chercheur en relations internationales à l'Université catholique de Louvain et vous êtes spécialiste des indépendantismes, spécialiste en séparation d'État. C'est vrai que dès l'annonce des résultats, David Cameron, le Premier ministre britannique, a déclaré que lors de la prochaine législature, Londres transférera davantage de pouvoir à l'Écosse. De quoi s'agit-il ?
Alors d'abord, il faut préciser que, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, c'est pas quelque chose qui est sorti quelques jours avant le référendum. C'était déjà prévu depuis juin, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que les trois grands partis britanniques, donc les conservateurs, le Labour, les travaillistes et les libéraux-démocrates, étaient tous d'accord pour donner plus de compétences à l'Écosse. Mmh. Concrètement, il s'agit dans deux domaines principalement. D'abord, dans le domaine de la fiscalité. En termes d'impôts sur revenu, donc l'Écosse pourra elle-même
lever l'impôt.
Pas lever l'impôt directement, mais déterminer en fait les tranches, modifier les tranches d'imposition et le taux d'imposition. D'accord. Et donc il y a une partie de cet impôt qui sera toujours prélevé par le Trésor britannique, mais qui ira directement dans les caisses du gouvernement écossais. Et il a une marge de manœuvre là-dessus. Et l'autre point, c'est sur la protection sociale, puisque c'était une question vraiment centrale dans la campagne. C'est ce qui gêne beaucoup les Écossais, c'est-à-dire de devoir rogner sur la protection sociale et les zones de santé. Et donc il y a toute une série de compétences dans ce domaine dont il est prévu qu'elles soient transférées au gouvernement écossais.
Donc ça signifie que la gestion de la sécurité sociale sera transférée à Édimbourg. Il faut quand même préciser à André et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le Parlement écossais a déjà autorité sur plusieurs secteurs, sur la santé, l'éducation, l'environnement, les transports, la police.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, il faut voir aussi que, par exemple, sur l'éducation, c'est encore plus ancien que la dévolution au Parlement écossais, la restauration du Parlement écossais à la fin des années 90. Mmh. Auparavant, il y avait un ministre britannique qui était chargé des affaires écossaises, et il y avait une éducation écossaise qui est distincte du britannique. En termes juridiques aussi, il y a toujours eu une différence très importante. Et là, on va plus loin et on laisse ça vraiment aux Écossais.
Et ce sera pour quand exactement ?
Alors ça, c'est une grande question. C'est une grande question parce que, alors d'abord, voilà, David Cameron a dit que ça sera mis en œuvre durant la prochaine législature. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui sera au pouvoir après les élections d'avril prochain au Royaume-Uni. Selon toute vraisemblance, ça ne sera pas David Cameron. On verra bien, mais c'est en tout cas, ça semble assez compliqué. Donc voilà. Donc une fois que les élections seront passées, il y a des négociations qui vont s'engager. Donc avec le nouveau parti au pouvoir et l'Écosse. Et même une fois que les négociations sont terminées, il faut toujours un certain temps de mise en œuvre, de transfert du personnel, etc. Donc
ça prendra du temps.
Oui, ça peut prendre plusieurs années. Vraiment.
Reste avec nous, Vincent Laborderie. Autre question, elle nous vient de Côte d'Ivoire. Serge, bonjour.
Bonjour, Anne.
On écoute votre question.
Ok. Bon, après le référendum de l'Écosse soldé par un an, j'aimerais savoir si les autres pays du Royaume-Uni, tels que l'Irlande du Nord, ne vont pas demander plus d'autonomie.
Alors, les autres pays, les autres nations, les autres régions, Vincent Laborderie, on imagine que l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande pourraient dire, bah, nous aussi, on voudrait davantage de pouvoir.
Oui, bah alors il n'y a pas vraiment de demande là-dessus, de demande explicite de la part de ces différentes nations, parce que donc, en même temps qu'il y a eu la dévolution à la fin des années 90 pour l'Écosse, il y a également eu des compétences qui ont été données au Pays de Galles. Bon, l'Irlande du Nord, c'est plus compliqué parce qu'il y a évidemment l'opposition entre catholiques et protestants. Et donc, plus on va donner de pouvoir au niveau directement nord-irlandais, et plus on entre dans cette problématique-là. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'ils souhaitent. Mmh. Mais par contre, il y a la volonté qui a été exprimée par David Cameron le soir de la victoire du non, qui est de faire en gros un système fédéral. Ce qui peut s'apparenter à un système fédéral. En fait, jusqu'à présent, on avait un État décentralisé et de manière très asymétrique, c'est-à-dire que vous aviez l'Écosse qui avait plus de compétences et d'autres qui en avaient moins, voire comme l'Angleterre, pas du tout. Et là, on s'orienterait vers un système fédéral avec quatre entités. Et oui. En fait, même l'Angleterre deviendrait une entité pas tout à fait distincte, mais avec des pouvoirs propres.
Ouais, autre question, Aboubacar de Paris nous dit comment expliquer que plusieurs référendums sur l'indépendance ont lieu dans plusieurs pays européens en même temps. Alors, c'est pas vraiment le cas. Il a certainement entendu parler effectivement que les Catalans en Espagne voulaient organiser un référendum en novembre prochain. Mais on peut s'interroger effectivement sur cette fièvre indépendantiste qui gagne l'Europe.
Oui, bah alors il faut voir qu'en fait les mouvements régionalistes ou nationalistes sont en expansion, mais la toute grande majorité sont des mouvements autonomistes, donc qui demandent soit une reconnaissance culturelle, linguistique, soit plus de compétences une fois qu'ils sont dans un système qui les reconnaît. Et en fait, les mouvements vraiment indépendantistes, autres que des mouvements vraiment minoritaires, on les trouve seulement en Catalogne et en Écosse. Et bon, le Pays Basque est plus ambigu avec un parti indépendantiste fort et un parti autonomiste assez important qui est ambigu un peu là-dessus.
Et les Flamands, les Flamands en Belgique, ce n'est plus le cas, ce n'est plus d'actualité?
Non, pas vraiment, parce que le parti vraiment indépendantiste d'extrême droite, le Vlaams Belang, maintenant ne représente quasiment plus rien. Il a fait 7% aux dernières élections. Et le parti important de ce point de vue-là, c'est la NVA, qui est le premier parti belge, mais qui a vu que bon, il y a vraiment une toute petite minorité de Flamands qui veulent l'indépendance. Et donc eux s'orientent vers un système confédéral qui verrait en fait la Belgique divisée en deux entités selon leur point de vue, avec quasiment tous les pouvoirs, mais sans indépendance.
Ouais. Et en tout cas, en parlant d'indépendance, Vincent Laborderie, vous citiez à l'instant le Pays Basque et surtout la Catalogne. Ce qu'on voit, c'est que ces peuples, certes, aspirent, vous le disiez tout à l'heure, à une reconnaissance, à une autonomie culturelle à cause de leurs différences linguistiques, mais aujourd'hui, derrière tout ça, et à cause de la crise économique de ces dernières années, il y a réellement des motivations économiques. C'est-à-dire que quand on entend les indépendantistes catalans, ils disent, nous, il n'est plus question, nous, la région la plus riche d'Espagne, il n'est plus question de payer pour le reste du pays.
Oui, très clairement, parce que, mais ce qu'il y a, c'est que j'englobais tout, mais en fait, effectivement, les cas que vous citez ont déjà leur autonomie linguistique et culturelle, donc ils ont déjà obtenu ça il y a plusieurs années. Donc oui, on est passé à autre chose, on est passé à cette revendication économique, mais qui n'est pas seulement une question, on va dire, d'égoïsme ou de volonté de ne pas partager. Il y a aussi la mise en cause de la manière dont fonctionne l'État dans lequel il se trouve. On l'a très bien vu dans le cas de l'Écosse, où, bon, alors évidemment, il y avait l'argument du pétrole, etc., mais le principal argument, c'était surtout que Cameron et les conservateurs menaient une politique de droite dure, très libérale, alors que les Écossais étaient plutôt à gauche.
Ils sont travaillistes, essentiellement, voilà. Effectivement.
Et même plus à gauche que le New Labour de Tony Blair.
Ouais. Il faut qu'on interrompe. Vincent Laborderie, je suis désolé de vous interrompre. On rend l'antenne pour le point complet sur l'actualité. On va retrouver la rédaction dans un instant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales à l'Université catholique de Louvain. Louvain, c'est en Belgique. Restez avec nous tout de suite, le journal.
Appel sur l'actualité. Vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.